Elle avait le goût du miracle et le sens de l'absolu. Pas un instant elle n'imagina que Guccio pût être dans une disposition d'âme différente de la sienne, ni que le baiser qu'ils avaient échangé pût avoir pour lui une signification moins grave que celle qu'elle y attachait. Elle ne se redressa et ne reprit le maintien qui convenait que lorsque les toits de Cressay apparurent dans le val. Les deux frères étaient rentrés de la chasse. Dame Eliabelle vit sans plaisir Marie revenir en compagnie de Guccio. Quoi qu'ils fissent pour ne rien laisser paraître, les jeunes gens avaient un air de bonheur qui donna du dépit à la grasse châtelaine et lui inspira des pensées de sévérité envers sa fille. Mais elle n'osa aucune remarque en présence du jeune banquier. « J'ai fait rencontre de damoiselle Marie et lui ai demandé de me montrer les alentours de votre domaine, » dit Guccio. « C'est belle terre que vous possédez. » Puis il ajouta, « J'ai ordonné qu'on reporte votre créance à l'an prochain. Mon oncle, j'espère, m'approuvera. » « Peut-on rien refuser à si noble dame ?» Alors Dame Eliabelle gloussa et prit un air de discret triomphe. On fit à Guccio force remerciements. Pourtant, quand il annonça qu'il allait repartir, on n'insista pas trop pour le garder. Il était bien charmant cavalier, ce jeune Lombard, et il avait rendu grand service, mais on ne le connaissait guère, après tout. La créance était prolongée, c'était l'essentiel. Dame Eliabelle n'aurait pas de mal à se persuader que ses charmes y avaient aidé. La seule personne qui désirait vraiment que Guccio restât ne pouvait ni n'osait rien dire. Pour dissiper la vague gêne qui s'installait, on força Guccio d'emporter un quartier de chevreuil que les frères avaient tué, et on lui fit promettre de revenir. Il promit en regardant Marie. « Pour les intérêts de la créance, je reviendrai. Soyez certain, » dit-il d'un ton jovial qui voulait donner le change. Son bagage bouclé, il se remit en selle. Le voyant s'éloigner en descendant vers la Mauldre, Madame de Cressay eut un fort soupir et déclara à ses fils, moins pour eux que pour donner du fil à ses illusions, « Mes enfants, votre mère s'est encore parlé au damoiseau. J'ai fait bonne manœuvre avec celui-là, et vous l'eussiez trouvé plus âpre si je ne l'avais point pris à part. » De peur de se trahir, Marie était déjà rentrée dans la maison. Sur la route de Paris, Guccio, galopant, se considérait comme un séducteur irrésistible qui n'avait qu'à paraître dans les châteaux pour y moissonner les cœurs. L'image de Marie dans le clos de pommiers, auprès de la rivière, ne le quittait pas, et il se promettait de revenir à Naufle très vite, dans quelques jours peut-être. Il arriva pour le souper rue des Lombards, et, jusqu'à une heure avancée, s'entretint avec son oncle Ptolemy. Celui-ci accepta sans peine les explications que Guccio lui donna au sujet de la créance, il avait d'autres soucis en tête. Mais il parut s'intéresser spécialement aux agissements du prévôt portefruit. Toute la nuit, Guccio eut l'impression que Marie habitait son sommeil. Le lendemain, il y pensait déjà un peu moins. Il connaissait à Paris deux femmes de marchands, jolies bourgeoises de 20 ans, qui ne lui étaient pas cruelles. Au bout de quelques jours, il avait oublié sa conquête de Naufle. Mais les destins se forment lentement, et nul ne sait parmi tous nos actes semés au hasard lesquels germeront pour s'épanouir comme des arbres. Nul ne pouvait imaginer que le baiser échangé au bord de la Mauldre conduirait la belle Marie jusqu'au berceau d'un roi. À Cressay, Marie commençait d'attendre.